Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 24 juin, il est 8h30, au programme de cette matinale, nous sommes en plateau et en direct avec Sébastien Kuhn, bonjour.
Bonjour Ben.
Merci d'être avec nous. Sébastien, tu es à la co-animation de l'événement Du Vent dans les Branches, c'est ce week-end, ça se passe à la forêt de la Louvière, on en parle avec toi dans un instant. Il est de retour, sans doute encore pour me jouer un mauvais tour, mais surtout pour parler d'histoire, salut Raph.
Salut à tous.
Histoire brève, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
On va parler du mur d'Adrien aujourd'hui.
Le mur d'Adrien, alors je vais vous baisser un peu parce que je vais déchirer les oreilles de nos auditeurs de bon matin à lundi à 8h30, ça fait du bien. Le mur d'Adrien.
C'est la pêche,
ouais,
oui.
C'est ça, mais ça va être très bien. À tout à l'heure, juste après l'interview de Sébastien. Et en dernière partie d'émission, Yveli nous rejoindra pour parler d'abeilles, la fête de l'abeille noire. C'est dans 15 jours, c'est au Pont de Montvert. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. À la perfection, nul n'est tenu. Bon sang, si l'espèce humaine était parfaite, ça se saurait. Comment parler de ce qu'il arrive sans parler de politique, surtout sur Barthas ? On n'a jamais essayé, autant aller voir. En tout cas, cette phrase commence très sincèrement à m'énerver. Mais sans déconner, les Pétains, Hitler, Mussolini, Franco et j'en passe. Si, si, on a essayé et on a eu des problèmes. Partout, le nationalisme et le racisme grondent, ça craint et j'entends cette phrase qui me gonfle. On n'a jamais essayé. Alors, avaler un pétard mammouth Force 4, est-ce que t'as déjà essayé ? Ben, tu vas voir, c'est pas super top. Je t'en foutrais, moi, on n'a jamais essayé. À la perfection, c'est sûr, nul n'est tenu, mais quand même, un minimum de réflexion, ça ferait pas de mal. Vous savez quoi ? Les loups sont juste là, pas loin.
De loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire, sans loups sont entrés dans Paris.
Et oui, cessons de rire, et si vous pouvez, même si vous ne voulez pas que les loups reviennent, allez voter dimanche, hein, je vais pas vous dire pour qui, mais quand même. Allez, on part en forêt, un peu d'air pur, d'air frais, ça va faire du bien, vous êtes bien sur Radio Barthas avec Seb pour parler de cet événement Du Vent dans les Branches, dans le cadre des événements du Papillon Fringant du Réel 48. C'est à la forêt de la Loubière, sur la commune de Chadenay, sur le Mont Lozère, c'est ça, c'est pas très loin de Bagnoles-les-Bains.
C'est ça, c'est entre Lannuéjouls et Bagnoles-les-Bains.
Alors, c'est la deuxième édition, vous avez rechoisi le même lieu parce que la première s'est très bien passée, c'était comment ?
Alors déjà, juste le lieu, c'est une prairie dans une espèce d'immense clairière qui est au milieu d'une hêtraie et d'une plantation de pins noirs d'Autriche de l'ONF. Donc un espèce d'endroit complètement surprenant, on ne le voit pas du tout, on l'imagine pas, on l'a trouvé par hasard. Et voilà, en fait, l'année dernière, on a proposé cet événement. Il se trouve qu'il a plu sur la fin. On n'a pas pu célébrer ensemble la fin de cette journée. On est parti vite parce qu'on n'avait qu'un pauvre petit barnum. voilà, et on s'est promis qu'on avait envie de le refaire aussi pour refaire découvrir cet endroit à un peu plus de monde et de pouvoir y rester un peu plus, enfin voilà, profiter de la fin d'après-midi dans cette prairie qui appartient à à une personne privée, une agricultrice qui nous met à dispo. Voilà, c'est surtout pour ça qu'on avait envie de le refaire aussi, de prendre le temps de profiter de cet endroit.
Le Réel 48 et la Coorga, hein, il y en a d'autres, hein, qui participent à l'événement, on va en parler, mais c'est dans le cadre des Papillons Fringants. Un petit mot peut-être sur les Papillons Fringants du Réel.
Alors, Papillons Fringants du Réel, c'est la 4e édition 2024. Ce sont des rendez-vous pour mettre à l'honneur la biodiversité sous toutes ses formes. C'est des rendez-vous un peu partout en Lozère. Le principe du Réel, c'est qu'ils s'appuient sur des adhérents de leur réseau. Donc, ils font appel à ces adhérents pour animer des moments autour de la biodiversité à plein d'endroits de la Lozère.
Et en co-organisation du Vent dans les Branches, il y aura qui ?
Alors là, comme partenaire, donc là c'est organisé par le Réel. Mmh. Moi, je suis avec eux sur cet événement. On y retrouvera le Pays d'Art d'Histoire. On y retrouvera Sophie Lemonnier et Laure Chapleur. On y retrouvera Paul Roy aussi sur une balade autour des arbres, du réchauffement climatique. On y retrouvera l'Alep avec Charles. On y retrouvera Biloba avec de la grimpe d'arbres. Et Manon Billot également, ouais. Qui va faire plein de temps de comptes, pareil, autour des arbres et de la forêt.
On détaillera le programme tout à l'heure. Le but étant, si j'ai bien compris, c'est en fait de découvrir la forêt un peu autrement, de façon ludique, un peu rigolote.
Ouais, c'est pas que découvrir la forêt. En fait, l'idée, c'est juste de passer un bon moment dans un espace forestier. Voilà, vraiment. De prendre un temps agréable avec un rythme un peu différent. Voilà, l'année dernière, c'était pareil, on avait calé plein de réservations sur les ateliers et tout. Là, on a voulu un truc un peu... Il y a quelques ateliers sur réservation parce que tout ne peut pas se faire à 50 personnes. Mais dans l'idée, c'est quand même proposer aux gens de venir, de pique-niquer avec nous le midi, de prendre le temps dans cet endroit qui est vraiment très très sympa et de picorer, de découvrir des ateliers. Il y a un atelier par exemple où on va avec Sophie, où les gens vont trouver des éléments naturels pour confectionner le pique-nique. Voilà, donc dans l'idée c'est vraiment de découvrir autrement la forêt. Mais l'espace où on accueille, c'est une grande clairière. Donc du coup, c'est un espace plutôt ensoleillé, plutôt lumineux, avec entouré de forêts autour.
Les ateliers, c'est entre 11h et 12h30, hein, c'est ça ?
Alors, ça commence à 11h et ça dure jusqu'à 18h.
Ah oui, ouais, voilà. Ouais. Mais juste pour les ateliers, donc là, c'est un petit départ à 11h, donc avec Sophie ou avec Charles. On choisit l'atelier qu'on veut, en fait.
Et il y aura aussi la grimpe d'arbres dès 11h, ouais. Voilà. On choisit, en fait, il n'y a pas besoin de réserver. Charles, c'est plutôt un atelier pour les enfants, enfin familial. C'est une chasse au trésor dans l'idée de trouver des morceaux de nichoirs. Donc il va fabriquer un nichoir à chouette et un nichoir à autre oiseau dans l'après-midi. Sophie, c'est plutôt un atelier ouvert plutôt aux adultes, on va dire, puisqu'il faut un peu plus marcher, découvrir, être capable de reconnaître des éléments naturels, enfin des végétaux pour confectionner à manger. Et la grimpe d'arbres, c'est pour tout le monde. L'idée, c'est de grimper en cordée au sommet de être plus que centenaires qui sont dans cette forêt.
Si vous voulez vous faire une idée, hein, y a un excellent reportage de nos amis de Télédry, hein, ils sont venus l'année dernière, j'ai vu ce reportage, et c'est impressionnant quand on monte comme ça sur l'arbre, c'est assez génial. Il y a des nouveautés cette année par rapport à l'année dernière ?
Alors il y a exactement le même programme que l'année dernière. Le Pays d'Art d'Histoire ne fait pas exactement la même proposition, fait plus une proposition en termes d'accueil. Il n'y a pas la même expo sur les arbres remarquables que l'année dernière, par exemple. Et après, en nouveauté, il y a donc Paul Roy et Manon Billot. Donc Manon, qui est conteuse, va proposer des temps, en fait. Elle a grosso modo 3-4 histoires, soit 5, soit 10 minutes, soit 20 minutes, et elle va se mettre dans un coin de pas très très loin de l'accueil, et dès qu'il y a suffisamment de gens, elle va compter. Surtout sur des temps un peu autour des temps morts du pique-nique, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc dans l'idée à piocher, enfin pareil, dans l'idée de profiter, on n'est pas obligé d'aller voir tout, mais on va prendre le temps d'être avec elle. Et puis Paul Roy, donc, qui va proposer une balade sur le thème de la civiculture, du changement climatique et de l'eau. Donc Paul, c'est plus un abord un peu plus universitaire, un peu plus conférencier. Voilà, mais c'est pareil, c'est accessible à tout le monde. Normalement, c'est un événement où on peut venir en famille largement, puisqu'il y en a pour tout le monde.
Et toi, tu vas proposer un quiz festif.
Alors moi, je vais l'animer, ouais. Après, je vais être un peu quand même un peu partout à gérer tout avec mes collègues du réel sur cet événement, notamment Manon. Mais oui, je serai sur le quiz avec le Pays d'Art d'Histoire. On aime bien faire ça ensemble.
quand ça, c'est une idée, un quiz festif, c'est quoi exactement?
Tu vois, question pour un champion.
Oui.
C'est pas ça. c'est sur le principe d'une question pour un champion, sauf qu'on va, nous même beaucoup rigoler. Voilà. Non, en fait, il y a blind test. Enfin voilà, on fait un quiz en lien avec la thématique, donc ça va parler du vent, de la forêt et du papillon, parce que faut pas oublier le papillon fringant.
Et on retrouvera Sophie et Laure Chapleur, qui est violoniste. Hein. Je les salue, je les embrasse toutes les deux, qui vont nous proposer un petit spectacle en fin d'après-midi vers 16h30.
Oui, c'est ça. L'année dernière, donc Sophie avait fait son atelier en deux temps là, autour de confectionner à manger. Et puis, là, comme on refaisait la proposition, et puis Laure faisait un concert perché dans les arbres. Voilà. Et donc, on avait envie de refaire pareil. Sauf que là, Sophie et Laure nous ont proposé elles-mêmes de faire un duo, c'est-à-dire des contes de Sophie... interrompu en musique, enfin accompagné en musique par Laure, qui va jouer à différents endroits de l'espace. Mmh. Voilà.
Évidemment, une question où c'est ton avis qui compte. Il y a Paul Roy qui propose une balade en forêt sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est assez absent des débats actuels. Quel est ton avis, si tant est que t'en aies un?
Alors c'est peut-être parce qu'en ce moment on le sent pas trop. j'ai pas compris complètement la question. Mon avis sur le réchauffement climatique ou mon avis sur le fait qu'il soit absent?
Absent des débats. Ouais,
ouais, parce que je pense que ce qui est dans les débats en ce moment, c'est malheureusement d'autres problématiques, et que enfin voilà, que je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont aucun projet pour aller contre le réchauffement climatique, et que c'est pas pour rien que ce soit absent du débat. Mmh.
Justement, c'est des événements comme ça qui permettent un peu de se reconnecter à la nature. C'est le but de ces événements-là.
Ouais, à la nature, aux gens aussi. Enfin, ensemble. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, oui. C'est pas un événement conçu pour 400 personnes. Pas du tout. C'est vraiment un truc, un rythme sympa où ce qu'on a envie, c'est que les gens viennent et passent un bon temps ensemble avec nous à discuter. Il y a un goûter. Enfin, il y aura plein de bonnes choses chouettes. Et puis vraiment, l'endroit... c'est une espèce de prairie. On arrive dedans, on a envie de se rouler dedans un peu à l'image de la petite maison dans la prairie. Vous voyez ce truc-là là. Enfin voilà, on sent que c'est chouette. On a envie d'y passer du temps.
Et évidemment, si c'était pas clair, disons-le, c'est totalement gratuit.
C'est totalement gratuit, ouais. C'est un peu comme tous les endroits perdus dans la Cambrousse. C'est un peu difficile d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un énorme parking d'Hyper-U à côté. Donc on vous invite à covoiturer. Il y a sur le site internet du Réel, il y a un point GPS qui donne l'endroit du départ, parce que si vous allez à Chadenay, vous n'êtes pas près d'arriver. C'est sur la commune de Chadenay, mais c'est loin. Voilà, c'est vraiment dans la forêt de la Loubière, c'est sur la route d'Auriac. Voilà, pour ceux qui connaissent, sur la route entre le col de la Loubière et Bagnoles-les-Bains, il y a une petite route marquée Auriac, et c'est un petit peu en dessous. On mettra des petites flèches pour indiquer où c'est.
Réel48.org pour le site, c'est vraiment bien foutu. Il y a le programme, je mettrai le lien tout à l'heure sur notre site internet avec le point GPS. C'est vrai que c'est très très clair quand on est dessus. Et pour s'inscrire, j'ai pas tout compris sur les inscriptions, parce que c'est marqué sur le site inscription, donc à contact@réel48.org. Faut s'inscrire aux ateliers quand même.
Alors, pas forcément à tous. C'est-à-dire, si vous voulez absolument faire un atelier, absolument, par exemple, faire la balade avec Paul Roy, admettons, si jamais il y avait 50 personnes qui voulaient la faire, ça ne serait pas possible. Voilà. Donc, si vous voulez absolument ne pas rater un atelier, inscrivez-vous. Après, on a dit pour la Gramme d'Arp, par exemple, qu'on le ferait un peu au fil de l'arrivée des gens. Voilà. C'est à peu près tout. Pareil, Charles, les ateliers avec Charles de l'Alep, s'il y a 40 gamins, il ne peut pas le faire. Oui. Mais comme l'idée, ce n'est pas qu'il y ait autant de monde, normalement, ça devrait pouvoir se gérer. Voilà. Si vous ne voulez rien rater, vous vous inscrivez. Et voilà.
Tu collabores comme ça souvent avec le Réel?
Ça fait on a collaboré ensemble sur cet événement l'année dernière. On a commencé comme ça. Et après, j'ai travaillé avec eux sur l'hôte à la bouche. Un événement autour du Lot dans Mende. Voilà, l'idée de redécouvrir la ville de Mende à travers sa rivière.
Il y en aura d'autres ?
J'espère.
Ouais, croisons les doigts. Réel48.org, je mets le lien sur notre site dans un instant. Vous retrouverez toutes les infos sur le site et aussi sur les papillons fringants, puisque ça durera tout l'été. Monsieur Couder, Raphaël, histoire bref, t'es chaud ?
Oui, ici présent, oui, oui.
Eh ben, on y va. Jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ? Histoire brève, histoire brève.
Bonjour à tous, me revoilà après une longue année passée au purgatoire dans un énième retour en grâce.
Ouais.
Cette fois-ci, mon temps passé dans l'eau de la désonde a été plus long que d'habitude. Monsieur de Paris a voulu que ma peine soit exemplaire. À tel point que j'ai cru que je finirais mes jours au fond de cette cave glauque avec tous les autres techniciens qui n'ont jamais revu la lumière du jour. Arthur, Corto, Christophe, spécial dédicace. J'ai du mal à me rappeler l'erreur que j'avais pu faire la dernière fois, mais ça devait être assez grave pour rejoindre les geôles. Je me demande si c'est pas quand j'ai oublié de refermer la porte en sortant du bureau de Monsieur de Paris. Ou alors c'est parce que j'avais fait une chronique sur les Juifs. Bref, dans tous les cas, je m'excuse publiquement auprès de vous, Monsieur de Paris, et je fais acte de contrition aujourd'hui devant vous, même si je sais pas trop pourquoi.
Excuse acceptée.
Il faut dire que rien n'est pire que lorsqu'on déçoit l'être aimé. La culpabilité vous ronge jusqu'au sang et le bon goût des choses est plus fade qu'à d'habitude. Le ciel est maussade et même les plus belles images du quotidien ressemblent à une salamandre écrasée sur un bord de route un jour de canicule. Je crois que même vous, Monsieur de Paris, vous avez déjà vécu ce genre d'expérience dans votre passé récent. Votre moitié me confie récemment, en larmes, la façon dont vous l'avez lâchement fait souffrir. Bon, tant pis, j'avais choisi de ne pas le dire, mais auditeur, tu dois savoir de quoi est capable Monsieur de Paris. Oui, je vais le dire, oui, je vais le révéler. Et tant pis si je dois repasser une année dans les caves. De toute façon, j'ai des copains maintenant. Sais-tu ce qu'a fait Monsieur de Paris, à l'élu de son cœur, auditeur ? La malheureuse a passé plusieurs mois en béquille à cause d'une vilaine blessure. Eh bien, auditeur, alors qu'elle se déplaçait chez elle dans le couloir, Monsieur de Paris a laissé volontairement, je dis bien volontairement, traîner au sol une chaussette à mode peau de banane pour la piéger et la faire tomber. Et son plan machiavélique a marché. Elle s'est rattrapée sur son pied meurtri. Je la revois me raconter en pleurs la fulgurance de sa douleur, son visage marqué par la peine d'avoir été trahi. Osez dire devant tout le monde que c'est faux,
ouais.
Monsieur de Paris.
Pas de commentaire.
La France, la Lozère du Sud vous écoute. Pas de commentaire, on est d'accord. Maintenant, auditeur, tu te demandes pourquoi il est si méchant. Pourquoi se montre-t-il si cruel envers sa destinée ? Je crains d'avoir la réponse. Je crois qu'il a essayé de filmer la scène pour la publier sur les réseaux et augmenter son nombre de followers. Son ambition cachée étant de gagner sa notoriété pour rejoindre une station plus connue que Radio Bartas. L'autre soir, l'un de ces soirs d'ivresse où il descend dans les caves étancher sa soif aux côtés de ses prisonniers, il m'a confié qu'il voulait rejoindre Sud Radio pour enfin pouvoir dire, je cite entre guillemets, le fond de ma pensée sur toutes ces conneries. Et puis il s'est endormi. Je soupçonne en fait de préparer sa défection vers la bande à Hanouna ou de préparer la pré-législative, ça on verra plus tard.
Ah, comment on regarde ?
Après avoir raconté ça, je suis conscient que ma prochaine chronique est plus que jamais hypothétique, que ma liberté est condamnée et que mon espérance de vie s'est considérablement réduite. Seuls ceux qui sont autour de moi dans ce studio voient cet œil noir que Monsieur de Paris qui me regarde avec des éclairs. Mais qu'importe, la vérité, rien que la vérité, contre la haine, et tant pis si elle doit choquer. Mais auditeur, il a fait bien pire. Bon, je le dis.
Maintenant que vous êtes là, allez-y. Hein.
Rappelez-vous le sycomore abattu dans le Northumberland sur le mur d'Adrien ? C'était lui. Il a raconté à tout le monde qu'il était parti en septembre faire les vendanges, mais en fait, il est allé dans le nord de l'Angleterre se rendre un pèlerinage sur le mur d'Adrien. Et pour marquer le coup, il n'a rien trouvé de mieux que d'abattre l'arbre le plus célèbre d'Angleterre. Oui, monsieur de Paris, maintenant c'est tous les Anglais qui vous détestent. Maintenant, auditeur, tu vas encore te poser la question pourquoi ? Pourquoi cet homme presque belge, immigré en Lozère, s'est rendu dans le nord de l'Angleterre pour voir le mur d'Adrien ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce mur d'Adrien que l'on voit sur toutes les images qui ont immortalisé le crime de Monsieur de Paris ? Et puis d'abord, c'est qui cet Adrien à qui Monsieur de Paris semble tant en vouloir pour vouloir lui couper son arbre ? Et là, je réponds juste que Adrien était un empereur romain du 2e siècle après Jésus-Christ, qui prit la succession de Trajan, dont on considère souvent qu'il marque l'apogée de l'Empire. C'est notamment vrai pour la Bretagne qui tomba sous la coupe romaine après les conquêtes d'Agricola. Mais la frontière se stabilise après la disparition de celui-ci à la fin du 1er siècle. Lorsqu'Adrien accède au pouvoir en 117, il n'est plus l'heure de poursuivre les conquêtes vers l'extrême nord de l'île, mais plutôt d'en stabiliser les frontières, et notamment de contenir les assauts des barbares pictes venus du nord. En 122, il décide de construire un grand mur de 117,5 km de long entre l'estuaire du Tyne et le golfe de Solway, soit au niveau de la limite entre l'Écosse et l'Angleterre actuelle. Il a fallu 5 ans aux Romains pour achever cet immense ouvrage, ponctué de quelques 300 tourelles et protégé par 17 camps retranchés, mais pas de Babaorum, là où Danum, petit bonhomme ou aquarium. Là, on parle plutôt de Uxelodunum, Vindolanda ou entre Vindovala.
Bah pour un lundi matin, bravo.
Ouais, beaucoup moins glamour que ce que voulait Goscinny, je pense. Cependant, ce mur, qui avait surtout une vocation défensive, n'a jamais été réellement efficace. Les barbares ont pu continuer leur raid malgré lui. Finalement, ce mur a plus une portée symbolique qu'une utilité militaire. D'autant plus qu'après son édification, les Romains le dépassent rapidement et envahissent encore des territoires plus au nord. Si bien qu'en 142, un nouveau mur est bâti au niveau du golfe de Clyde sous le règne d'Antonin. Celui d'Adrien devient donc complètement obsolète. Mais cette fois-ci, les Romains ont vu trop grand et ne parviennent jamais à contrôler ces nouvelles terres. Dès 163, le Limes revient se stabiliser au niveau du mur d'Adrien. Des garnisons y restent stationnées pendant plus de 200 ans, et elles marquent la présence et la puissance de Rome dans ses confins. Mais arrivé à une époque où Rome se délite de l'intérieur, ne parvenant plus à percevoir les impôts qui auraient pu permettre de maintenir le plus grand empire que l'Europe occidentale n'ait jamais connu, Rome implose. Dès lors, le mur d'Adrien ne protège plus qu'une coquille vide et les Pictes n'ont aucun mal à le franchir une ultime fois en 368. On atteste encore la présence de garnisons jusqu'en 400, puis ce fut l'abandon définitif de la Bretagne. Le mur reste, lui, puisqu'encore aujourd'hui, on peut le visiter avec des vestiges plutôt bien conservés, dont celui qui est au niveau de ce fameux sycomore que vous coupâtes, monsieur de Paris. Le mur d'Adrien est encore un objet touristique et un objet d'inspiration pour certains auteurs. Le mur de Game of Thrones de George Martin vient de là, par exemple, mais de nombreux réalisateurs l'ont aussi mis en évidence. On peut citer par exemple l'aigle de la 9e Légion de Kevin MacDonald, sorti en 2011, ou encore le Robin des Bois de Kevin Costner, où une scène célèbre fut tournée justement auprès de ce sycomore que vous coupâtes, monsieur de Paris. Voyez que l'on en revient toujours sur vos forfaits. Aujourd'hui, monsieur de Paris, décidément, vous voulez être le centre de l'attention. Quant à savoir pourquoi vous voulez devenir ainsi le centre de l'intérêt en Grande-Bretagne, et dans les cercles féministes et ou sadomasochistes, j'avoue ne pas avoir encore la réponse. Peut-être dans un prochain épisode, si je suis encore en vie d'ici là. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation.
Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, Raphaël. Je tiens à préciser que tout est faux. Sauf le mur d'Adrien, tiens, qui me fait penser un peu à la ligne Maginot, en fait. Hein.
Ouais. Oui, qui a été tout aussi inefficace, hein, d'ailleurs. Inefficace. C'est une grande tradition, la muraille de Chine, pareil. Mm. On aime bien faire des grands murs qui servent à rien. Je parlerai pas de Trump aussi au Mexique.
Ah bah ouais. Allez, bâtissons des ponts plutôt que des murs. On est là pour ça sur Barthas. Et j'embrasse Lila, évidemment. Tout est faux avec cette histoire de chaussettes. Du vent dans les branches, c'est donc ce samedi. Je mets tous les liens utiles. Merci beaucoup, Seb.
Avec plaisir.
À très bientôt, tu es le bienvenu sur cette antenne. Quand tu veux, aller dans un instant, Yveni nous rejoint pour parler de la fête de l'abeille. On écoute d'abord, je suis tombé par hasard ce matin dessus, Fool's Garden, Lemon Tree.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is
is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Vous êtes bien sur Radio Arthas et nous a rejoint en plateau Yveli, bonjour.
Bonjour.
La fête de l'abeille noire et des droits de l'abeille, c'est le week-end du 6 juillet, c'est au Pont de Montvert, c'est organisé par ton association L'Arbre aux Abeilles. Nous sommes à l'aube d'un moment historique, ça sera aussi le point de départ de la Ligue des droits de l'abeille, on va en parler, tu vas tout nous expliquer, mais commençons par le début et la naissance de ton asso, L'Arbre aux Abeilles. Elle est née en 2008, comment elle a commencé cette aventure et in fine, quels ont été les objectifs ?
Au départ, c'est très simple, c'est la rencontre avec un vieil homme qui aujourd'hui a 104 ans et qui vit toujours à Pont-de-Montvert. À l'époque, il n'y en avait que 85. C'était un vieil apiculteur qui avait la nostalgie de l'apiculture telle qu'elle était pratiquée autrefois sur ce territoire, c'est-à-dire en harmonie avec toutes les autres activités agricoles, ce qu'on appelle aujourd'hui la syntropie, et en fait, ou l'agroforesterie si on veut. Et en fait, il nous a transmis ce patrimoine un peu sous forme d'un film, qu'à l'époque c'était mon job, je fabriquais des films, j'étais fabricant de films comme on dit en allemand, réalisateur ou auteur-réalisateur si on préfère à la française. Donc on a tourné un film qu'on peut voir en streaming sur le web, ça s'appelle « L'arbre aux abeilles ». Un documentaire de 25 minutes, qui est en fait typique ethnologique, un peu comme faisait Jean Rouch, sur ce bonhomme, ce qu'il avait à dire. Il nous a montré un peu comment fabriquer les ruches troncs, comment les récolter, comment ça s'articulait dans la culture locale. Et ça nous a passionnés. Et à partir de là, avec quelques amis, notamment des scientifiques, on a lancé une association du même nom, L'Arbre aux Abeilles.
C'est magnifique, quoi. Alors, l'abeille noire, elle a une histoire singulière et l'avenir, d'après ce que j'ai lu, n'est pas radieux pour cette espèce. Quel est l'état des lieux ? Quel constat on peut en faire aujourd'hui ?
Alors, le constat purement scientifique, c'est une espèce en voie de disparition, c'est très clair. C'est directement lié à l'évolution des pratiques agricoles qui, elles-mêmes, sont directement liées à l'évolution des politiques alimentaires. Autrefois, on accordait beaucoup plus d'importance à la nourriture, au vivant, on était beaucoup moins dans l'abstraction. Le bitcoin n'existait pas encore et toutes ces saloperies afférentes. Donc, en réalité, le vivant avait beaucoup plus de valeur. Et c'est ce qui fait que vous aviez des campagnes qui étaient peuplées. Ce qui fait aussi qu'au cours de N générations, on faisait ce travail énorme de construction d'un ruchetron avec ses gradins en pierre. Vous imaginez à l'époque, sans outils mécaniques, ça représentait un investissement énorme d'énergie, de temps, de travail, de savoir-faire. Parce que tout cela avait une valeur, un sens dans l'économie et alimentaire de l'époque. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes clairement à l'ère de la malbouffe, de la production de masse pour une société de masse de plus en plus écrasante. Et ce n'est pas tellement un hasard. La masse, c'est un outil qui est fait pour écraser, ce n'est pas fait pour élever les choses dans les airs. Voilà. Donc, en réalité, le projet de la Ligue des droits de l'abeille, c'est à travers cette tradition des ruchetrons et de l'abeille noire, ça nous a directement inspiré un projet pour s'évader en fait de ce système de l'alimentation de masse sur quelque chose qui puisse nous fédérer tous ensemble, qui est la biologie de cette bestiole. On ne va pas s'intéresser à notre nombril d'êtres humains, mais à ce qui est en dehors de nous, à cet animal. Parce qu'en fait, on a déjà créé à Pont-de-Montvert une fédération qui a une existence au niveau national. Mais en fait, il y a tellement de façons différentes d'envisager les choses dès qu'on on se place du point de vue humain que ça nous éclate et ça ne nous permet pas de nous relier. Là, le projet, c'est de se relier autour de quelque chose qui nous dépasse, qui est la biologie de l'abeille, pure et simple, à travers ce que nous appelons ses droits. C'est un texte ludique que vous pourrez découvrir si vous venez à la fête. Et en fait, à partir de là, on peut arriver à aller un peu au-delà de nos différences individuelles, qui sont fabuleusement importantes, et essayer de se connecter via un réseau que nous allons créer, qui sera complètement open source, c'est-à-dire aucune contribution financière, etc., et qui permettra à des gens sur l'ensemble du territoire français, européen et voire mondial de se connecter de manière totalement autonome pour créer des actions autour de cette notion des droits de l'abeille et au-delà, quelque chose qui est directement lié, qui est une revalorisation du vivant à travers la nourriture.
Alors justement, c'est, là si je comprends bien, ce sera un partage de connaissances, un partage d'actions dans oui. le but de protéger, on va dire, encore plus l'abeille.
Oui, alors c'est pas seulement protéger l'abeille, c'est retrouver un sens à notre coexistence avec l'abeille. C'est-à-dire que c'est directement lié. L'abeille, c'est merveilleux parce qu'en fait, c'est l'interaction d'un insecte avec la société humaine. Qui plus est, l'abeille noire... Un insecte sauvage. Ouais. Ça fait partie des espèces sauvages du territoire européen. Et c'est l'interaction, en fait, assez merveilleuse d'un animal sauvage et de la société humaine au fil des siècles qui s'est transmis jusqu'à nous à travers cette tradition des rejetons. Et donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est de l'explorer pour. Non pas la reproduire de manière dogmatique, fondamentaliste, mais de l'adapter à nos enjeux contemporains qui sont de renouer avec le vivant.
Alors, ça n'aurait échappé à personne, on est en période électorale, vous voyez, c'est Barthas, on les couvre pas, mais enfin, moi je m'étonne que l'environnement, que les dangers du réchauffement climatique ou la baisse de la biodiversité, etc., sont très peu présents dans les débats. C'est affligeant, c'est attristant.
Oui, enfin, c'est tout à fait logique, puisqu'on est dans une société qui s'est construite de manière négative vis-à-vis du vivant. Hein. Vous lisez Hegel, qui est en fait la base de la philosophie des temps modernes, et Hegel appelle ça la négativité, c'est-à-dire la manière dont l'activité humaine va s'inscrire de manière négative vis-à-vis du vivant, en étant en fait de plus en plus artificielle et artificialisée. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Bitcoin, parce que c'est le fin du fin, c'est une monnaie. Déjà, la monnaie, c'est quelque chose de complètement abstrait et virtuel et qui n'a aucun fondement concret. Mais le Bitcoin, ben, c'est sa puissance 10. C'est absolument formidable. L'être humain est arrivé à se dématérialiser. En fait, à travers cette Ligue des droits de l'abeille, le projet, si vous voulez, fondamental, c'est de se rematérialiser tous ensemble à l'aide, je dirais, de cette histoire d'abeille noire. De droit de l'abeille, qui est en fait un récit. C'est un récit qui est à l'inverse du récit de la société de masse, hein, dans la société de la malbouffe. Et c'est pour ça que lors de la fête, vous parliez d'échanges de savoir-faire, ben, y a surtout des rencontres avec des agriculteurs, artistes, artisans, qui vous permettront de goûter concrètement, boire, goûter le résultat de leur travail, de discuter avec eux, de voir la façon dont ils vivent finalement assez bien et qui sont très heureux de vivre en phase avec le vivant. Puisque finalement, c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'être heureux. Hein. Ce qu'on nous fait toujours miroiter, c'est des promesses pour être heureux. Sauf que certaines promesses ne fonctionnent pas très bien depuis quelques temps. Mais là, l'idée, c'est d'essayer de mettre en adéquation aussi à travers cette notion de coexistence apaisée avec l'animal qu'est l'abeille, un système qui permette en fait d'être heureux, de bien vivre, d'avoir du plaisir à travailler, parce que finalement ça devient le grand absent de nos débats. Vous parliez de l'environnement, moi j'irai au-delà, j'irai la notion de plaisir. Le plaisir, ah ben, on n'en parle pas beaucoup. Vous savez, il paraît, il y a 4 femmes chefs d'État qui se sont préoccupées occupée du bien-être ces dernières décennies. Il y en a une qui a été écartée du pouvoir en Nouvelle-Zélande, il y en a une autre, c'est en Finlande, etc. Bon, c'est assez intéressant de replacer en fait le vivant, la notion de bien-être, de plaisir au cœur des débats. Et par exemple, d'explorer l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, de 1948, parce que finalement, cette histoire de Ligue des droits de l'abeille, c'est basé sur un texte ludique que nous avons écrit en 2018 dans le cadre de l'association Déclaration universelle des droits de l'abeille. Voilà. C'est un appuyé directement sur cet article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Alors, on a la chance de vivre sur un territoire exceptionnel, hein, le parc national des Cévennes. C'est un atout pour les abeilles. Est-ce que vous avez des relations avec justement le parc ?
Assez peu, parce qu'en fait, je ne sais pas si... nous avions au départ de très très bonnes relations avec le parc national il y a... en 2008, jusqu'à une certaine période. Et ensuite, bon, il s'est avéré qu'en matière d'abeilles, la politique du parc, d'un autre point de vue, pas très claire et pas très conforme à ces enjeux qui devraient être la conservation de la biodiversité, puisqu'on y fait entre autres la promotion de pratiques très réductrices de la biodiversité, comme par exemple le greffage, pour obtenir, fabriquer artificiellement des reines d'abeilles, ce qui va à l'encontre de la biodiversité. Donc nous sommes un peu sceptiques sur ce point et d'autres, je ne vais pas les énumérer, mais disons qu'il y a une certaine distance. Nous sommes toujours ouverts au dialogue, mais il faudrait que ça aille dans le sens de la conservation de la biodiversité en matière d'abeilles, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.
Ce sera un plaisir de leur faire passer le message. Ici, donc, on va revenir à la fête de l'abeille, puisque c'est une fête. Ça va permettre du partage de savoir-faire, des rencontres entre le grand public et les producteurs, productrices.
Ouais, alors oui, d'une part, et puis aussi il y a des conférences et des spectacles. Mais c'est vrai que nous tenons beaucoup à cette dimension de l'expérience, on appelle ça organoleptique ou gastronomique, comme on veut. Alors gastronomie, c'est souvent plombé par une connotation de classe supérieure. En fait, la gastronomie, c'est un droit fondamental de tout être vivant. Les animaux sont des gastronomes, les sangliers sont des gastronomes, les insectes, les oiseaux sont des gastronomes. Nos ancêtres, des peuples premiers, y compris des anthropophages, étaient des gastronomes. En fait, on a aliéné l'espèce humaine en la privant de la gastronomie. Et revisiter les utopistes du 19e siècle, comme Charles Fourier par exemple, vous verrez que la gastronomie, le plaisir de manger, qui est fondamental dans le vivant, et de boire, n'oublions pas aussi, est quelque chose d'absolument central dans les sociétés. Et dans les sociétés des peuples premiers, l'élaboration de repas en commun, le partage, ce que les Grecs appelaient le symposium, c'est quelque chose, un acte social qui crée du lien, et ça, bien entendu que c'est au cœur de la fête, ces repas partagés. Donc il y a un festin le samedi soir et tout au long des dégustations possibles. Et il y a aussi un concert, c'est assez amusant. Nous avons pris le parti cette année de faire une conférence en plein air dans le site Vallée de l'Abeille Noire. Entreprendre Montvert et Flora, que nous avons aménagé pour la conservation de la biodiversité. Alors, il n'est pas question de la queue d'abeilles, vous verrez, il est question aussi des béales, des canaux d'irrigation, des espèces fruitières anciennes, etc. Et là, donc, vite commenté par des membres de l'association, le samedi après-midi, donc conférence en plein air. Nous avons une conférence dans le temple, mais là, c'est conférence plein air, suivie d'un concert en plein air. Le compositeur Jean Poinsignon, qui travaille à partir de sons d'insectes et de sons d'oiseaux. Et le concert se fera dans un ruchetron que nous avons construit là, et qui malheureusement est vide d'abeilles, grâce ou à cause, comme on veut le voir, du frelon asiatique, qui bouffe de plus en plus de nos colonies. C'est absolument catastrophique. Et là, il y a un gros problème.
Gros problème. Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, j'ai vu certains pièges, etc., des grillages où l'abeille peut sortir et rentrer, le frelon n'y a pas accès. C'est une des solutions ?
Oui, c'est une des solutions. Et malheureusement, souvent, elle s'avère très insuffisante. Et ça nous interpelle beaucoup, parce que nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de ces animaux, pas seulement parce que nous les élevons, mais parce que voilà, ils font partie de notre univers et cela va nous obliger à modifier nos pratiques. En fait, c'est extrêmement violent. Là, mais encore une fois, resituons ce problème de manière systémique, c'est-à-dire ne le voyons pas comme quelque chose d'isolé, mais c'est une fois de plus une perturbation des écosystèmes du fait d'une activité qui est globalement biocide, c'est-à-dire destructive de la biodiversité, qui est un commerce international qui s'effectue dans des objectifs économiques à très court terme. Le frelon asiatique, de même que le varroa, il n'est pas arrivé tout seul dans les Cévennes. Il est arrivé pour des raisons bien précises, et c'est à ces raisons-là qu'il faut s'intéresser et essayer de construire tous ensemble un modèle social et économique et politique qui soit fort différent et qui nous évite des catastrophes. Parce que si on veut parler de choses similaires, il y a bien d'autres dangers qui pèsent sur les abeilles actuellement du fait de ces pratiques commerciales insensées, d'aller toujours plus vite et gagner toujours plus d'argent au détriment de toute logique et de toute sécurité. Parlons de la fameuse sécurité dont on entend si souvent parler dans les débats politiques sécuritaires. Mais la sécurité, c'est avant tout de préserver le vivant et donc de repenser notre économie, notre politique.
La voix de la raison ce matin sur Radio Bartas, ça fait du bien à entendre. Vous avez balayé donc la journée du samedi et il y aura une soirée inaugurale qui se passera à Masse-Méjean, c'est chez Cécile et Cyril qu'on salue. Ce sera le vendredi soir.
Le vendredi soir, c'est une soirée très conviviale, complètement informelle, repas tiré du sac, avec ensuite, profitons d'être au théâtre clandestin, une scène ouverte où tous ceux qui ont une histoire à raconter autour des abeilles ou du miel auront la possibilité de le faire dans ce merveilleux petit théâtre champêtre.
On a parlé du samedi, évidemment ça continuera aussi le dimanche puisqu'il y aura une expo et une conférence l'après-midi.
Oui, alors au centre du village où il y a un très beau édifice, le temple en granit gris, et c'est aussi une très belle salle d'exposition qui va héberger le travail d'une photographe, Samantha Zachary, qui a longtemps travaillé avec nous dans les Cévennes sur les ruches étrangères, et aussi dans le cadre d'une exposition au titre un peu provocateur, Les ruches troncs ont la patate, le travail d'un formidable photographe breton autour des germes de pommes de terre. Alors c'est insensé à quel point les germes de pommes de terre peuvent avoir des formes fabuleuses, et lorsqu'ils sont photographiés par quelqu'un qui maîtrise la macrophotographie et la mise en scène, c'est plus qu'étonnant. Et donc c'est aussi de manière très provocatrice le projet de montrer que nous intéressons aux abeilles, mais de manière très large, avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble agro-culturel qui les entoure. Nous ne sommes pas des spécialistes de la spécialité de l'abeille, les professionnels de la profession, comme disait Godard, mais ça ne prend un sens de notre point de vue. Dans les urgences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous pensons qu'avec Aurélien Barraud, qu'il est urgent d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire globale.
Et à 15h, il y aura la conférence de Roméo Bondon, La Bête Noire.
Oui, alors là aussi, on ne parle pas que d'abeilles, et là aussi, c'est provocateur. Ouais. Et ce n'est pas par hasard que nous avons choisi Roméo, d'une part, parce que c'est un jeune scientifique brillant qui vit en Lozère, mais aussi parce que ce titre, La Bête Noire, est très cousin, en quelque sorte, la problématique de l'abeille noire, puisque c'est une fois de plus un animal sauvage avec une forte interaction avec la société humaine.
Passionnant, en tout cas, ça c'est le week-end du 5, 6, 7 juillet, c'est au Pont Nonvert, la fête de l'abeille noire et des droits de l'abeille. Merci beaucoup Yves.
Avec grand plaisir.
Pour l'association L'Arbre aux Abeilles, je mets évidemment tous les liens, votre site, tout ce qu'il faut savoir sur l'abeille noire et sur ce que vous faites sur notre site dans un instant. Merci beaucoup et bonne journée.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec, entre autres, Mathilde de l'association Vivre à Vialas pour parler du festival Vialas à la page. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Donc, on se quitte avec Moustaki, Le Temps de Vivre. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À mercredi, ciao. Thank you.
mon projet sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs de moi, de mes. Tout est possible, tout.